France Inter, le 7-10.
7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est le gouverneur de la Banque de France.
Qui adresse, Nicolas, sa lettre rituelle au président de la République. Le ton a changé, c'est flagrant, l'inflation recule mieux que prévu, les taux d'emprunt vont commencer à baisser très bientôt, l'Europe aurait ainsi formidablement géré cette crise. Vibrant plaidoyer pour la mécanique européenne, à 6 semaines des élections, peut-être que ce n'est pas anodin. Bonjour François Villeroy de Gallo.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors, inflation, soulagement, satisfaction, victoire, triomphe, au regard des presque 2 ans qui viennent de s'écouler, où doit-on placer le curseur selon vous?
Alors d'abord, on va éviter le mot triomphe, je crois que l'heure n'est pas au triomphalisme. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que la victoire contre l'inflation est en bonne voie. Rappelez-vous, à l'échelle française, on a eu un pic d'inflation à 7% au début de l'année dernière. Aujourd'hui, on est revenu à 2,4. Et je vais redire ce matin que nous serons, d'ici l'an prochain ou plus tard, revenus autour de 2% d'inflation, ce qui est notre objectif.
Alors, qui dit inflation, monsieur le gouverneur, dit prix, dit pouvoir d'achat. Or, le pouvoir d'achat est un levier décisif dans les intentions de vote à venir. Graphique stupéfiant, page 9 de votre lettre au président de la République. C'est le gain du pouvoir d'achat des Français depuis 25 ans. Il est bien plus élevé que celui de toute la zone euro, allemand compris. Il était important de le rappeler.
Alors, nous avons dans cette lettre fait un bilan un peu long de l'euro. Pourquoi ? Parce que le 1er janvier dernier, on vient de passer en 25 ans d'union monétaire. Et je crois qu'au-delà du court terme, c'est toujours important d'avoir un regard long. Et effectivement, on s'aperçoit que sur 25 ans, l'euro a bien aidé les Français, puisque nous avons en moyenne plus de gains de pouvoir d'achat, à 26% sur 25 ans, que la moyenne européenne, et c'est vrai que les Allemands. Alors, je sais que je vais surprendre un certain nombre d'auditeurs en disant cela, mais ce n'est pas des chiffres de la Banque de France, hein, c'est des chiffres établis par les instituts statistiques, c'est des moyennes. Donc tout le monde ne se retrouve pas forcément dans ce chiffre. Mais je crois que globalement, il y a eu moins d'inflation en France que dans les autres pays européens, ça a aidé. Et puis, nous avons des transferts publics et sociaux assez importants, ce qui crée d'ailleurs des problèmes de dette publique, hein, on y reviendra.
Alors,
sans
justement...
doute, et des augmentations de salaire. Mais le pouvoir d'achat, il dépend de 2 choses très simples. Il faut qu'il y ait moins d'inflation, c'est en bonne voie vers les 2%, et puis il faut qu'il y ait plus de croissance.
On va y venir, mais en attendant,
ça il faut
François
muscler l'Europe sur la croissance.
De Gallo, pourquoi ce gain mirobolant? Pourquoi les Français ne le ressentent-ils pas? Pourquoi l'explosion des intentions de vote pour l'extrême droite traduit-elle massivement une colère? Et une colère sur le pouvoir d'achat. Les Français sont-ils des crétins qui n'y comprennent rien?
Pas du tout. Alors, et là, je rejoins ce que Dominique Seux disait à l'instant sur la culture économique des Français. Sonia De Villers, vous ne m'entraînerez pas sur le terrain des commentaires politiques. La Banque de France est indépendante, elle représente tous les Français et elle n'est évidemment, indépendante
de tous les intérêts politiques. Est-ce que vos chiffres macroéconomiques sont impuissants à traduire la réalité de ce qui se passe en France? Qu'il y a des gagnants et des perdants sur ce gain de pouvoir d'achat? Et là, Dominique va dire que je suis bien française en posant cette question. Est-ce qu'il y en a qui ont bien profité de cette hausse du pouvoir d'achat et pas d'autres?
Alors, si vous me laissez répondre sur les chiffres, je crois que cette moyenne, elle traduit bien ce qui s'est passé pour la grande majorité des Français, y compris les salariés les plus défavorisés. Nous avons en particulier l'indexation du SMIC en France sur l'inflation qui protège, et je crois que c'est juste et que c'est bienvenu, les salariés les plus modestes. Alors quand vous parliez de colère ou de sentiments différents, je crois que la poussée d'inflation récente, évidemment, a changé les choses. Pourquoi ? Parce que nos concitoyens ont vu, notamment sur les achats du quotidien, hein, le prix de l'essence à la pompe ou le caddie dans l'hypermarché, qui, souvenez-vous, à un moment ont nettement plus augmenté, les augmentations à 2 chiffres, ils ont ressenti une augmentation des prix encore plus forte que la réalité de la moyenne de leurs achats. C'est normal. Nous sommes sensibles aux prix qui augmentent le plus et on fait un peu moins attention aux loyers ou aux services qui ont moins augmenté. Mais c'est pour ça, je crois qu'il était très important, et ça a été la politique de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne, de vaincre l'inflation rapidement. Et je pense que petit à petit, cette perception du pouvoir d'achat va redevenir plus positive, y compris, si vous me permettez d'ajouter, pour une raison simple, c'est qu'à partir du début de cette année, les prix vont baisser, enfin l'augmentation des prix va décélérer plus rapidement que les salaires. Donc les salaires vont passer devant les prix et dégager du pouvoir d'achat.
Vous rentrez de Washington, François Villeroy de Gallo. L'économie américaine a triomphé en 2023. Croissance, plein emploi et inflation maîtrisée. Tout ça sous la férule de Joe Biden. Et pourtant, là non plus, hein, je vous parle de corrélation entre l'économie et la politique. Là non plus, ça ne l'a pas aidé. Politiquement, ça vous ébranle, ça vous interpelle?
Alors là aussi, je reviens sur les chiffres économiques, parce que le rôle de la Banque de France, c'est d'apporter son expertise. Je rentre effectivement de Washington pour ce qu'on appelle les réunions de printemps du Fonds monétaire international. Et là, tout le monde partage le diagnostic. On se retrouve, il y a un dialogue, je crois, franc et très utile. Alors le diagnostic, pour nous, Européens, il est assez stimulant, il faut bien dire. C'est que l'économie...
Ou assez humiliant.
Alors, humiliant, ça va dépendre de nous. Je crois qu'il faut qu'on réagisse, et c'est l'objet de cette lettre, comment muscler l'économie et la croissance européenne. Mais l'économie américaine est en pleine forme.
Elle est flamboyante.
Il faut bien dire, elle est avec une forte croissance, elle est au plein emploi, elle dégage une capacité d'innovation impressionnante. Alors sur les conséquences politiques américaines, on verra au mois de novembre à l'occasion de l'élection. Mais je crois qu'il y a un appel au réveil pour nous, Européens. Je suis d'accord avec ce que disait Yael Gauss tout à l'heure, je pense que l'Europe a très bien géré les crises. Hein, la crise de la pandémie, elle a bien répondu à l'inflation grâce à la Banque Centrale Européenne. Mais maintenant, il faut que l'Europe traite ses problèmes de fond, c'est-à-dire muscler sa croissance et sa capacité d'innovation.
Muscler. Comment elle muscle si elle ne dépense pas? Parce que la croissance américaine, bravo, il serait temps que l'Europe s'en rapproche. D'accord, on vous a bien compris. Mais ce que vous ne dites pas dans votre lettre, c'est que ce pays vit totalement à crédit. Les États-Unis vivent totalement à crédit. Que leur dette est bien plus énorme que la nôtre et que manifestement, ça n'affole personne.
Sonia De Villers, je me permets de vous arrêter. Dites-nous. La dette américaine est effectivement élevée en augmentation, mais elle est à peu près au même niveau que la nôtre. Il ne faut pas du tout oublier que nous aussi, nous vivons à crédit. Et quand on regarde les leviers de la croissance américaine, la relance budgétaire a pu jouer un rôle. Mais c'est un levier parmi beaucoup d'autres. Moi, je vais vous en citer deux autres qui sont très importants, et je crois qu'il faut que l'Europe les active. C'est la taille multipliée par la puissance financière. Si vous me permettez d'insister sur la taille. Le marché américain est très attractif. Tout le monde dit qu'il faut être sur le marché américain, qui serait le plus grand marché du monde. Il se trouve que le marché unique européen, il est aussi grand. Simplement, il est moins intégré. Il y a encore trop de frottements à l'intérieur, trop de frontières. Et ça, c'est le rapport que l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta vient de remettre. Il faut vraiment pousser le marché unique européen, y compris dans des nouveaux domaines comme les services et le numérique, qui seraient d'ailleurs assez favorables à la France.
Alors, dette, hein, puisqu'on vient de parler de déficit et de dette.
Et puis on reparlera de la puissance financière, ça c'est un atout européen qui est l'épargne.
Vous viendrez tous les jours, si vous voulez.
Alors, si vous voulez bien, j'en dis juste un mot pour ceux qui nous écoutent.
L'Europe, parce que c'est important.
On va parler des taux d'intérêt juste après. L'Europe a une épargne financière qui est abondante, mais il se trouve que nous en exportons une bonne partie justement vers les États-Unis pour les financer les investissements climatiques ou technologiques aux États-Unis. Eh bien, faisons ça en France, en Europe, c'est l'Union pour l'épargne et l'investissement.
Les taux d'intérêt, ça y est, ça va baisser. Quand, comment, combien?
Alors, les taux d'intérêt vont très probablement baisser en Europe début juin, lors de notre prochaine réunion du Conseil des gouverneurs. Alors ça sera probablement le 6 juin, parce que c'est notre prochaine réunion, jeudi 6 juin. Et là, l'Europe montrera un peu la voie, parce que l'Europe est en avance sur d'autres, y compris les États-Unis, dans ses progrès contre l'inflation dont nous parlions. Et puis, il y aura sans doute d'autres baisses derrière, selon un rythme pragmatique. On verra comment évolue cette lutte contre l'inflation. Et je pense que ça soutiendra l'activité, l'emploi, l'investissement en Europe. Donc, ça aidera. Mais ça ne remplace pas ces réformes de fonds, la taille, le marché unique, multiplié par la puissance financière.
On a fini, monsieur le gouverneur. Combien? Juste, de combien ça va baisser?
Je vais employer l'adjectif que nous employons habituellement, ça sera une baisse progressive. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet de s'adapter petit à petit. Nous, vous savez, nous sommes très pragmatiques. Moi, je plaide pour un gradualisme pragmatique, c'est-à-dire on regarde les données.
Donc ça va commencer petit.
Ça sera le symétrique de ce qui s'est fait. Mais un pragmatisme qui soit agile pour qu'on puisse continuer ensuite.
Merci François Villeroy de Gallo.
Et merci Sonia De Villers.